Chers amis, bonjour et bienvenue dans votre chaîne de podcast Une alchimie de l'éveil. Je suis Keragir et aujourd'hui, nous allons partir en voyage pour découvrir l'ego et ses pièges. Loin de moi l'idée de prétendre une compréhension omnisciente et exhaustive de la notion de l'ego. Mais nous allons le déconstruire, excusez-moi la blague à deux balles, pour commencer à comprendre comment il joue et déjoue des tours et des détours pour toujours avoir une place centrale dans nos vies. Nous allons ainsi découvrir les moyens de l'identifier, le moyen de le dépasser et le moyen de se sublimer. Il faut dire que la blague de l'ego et de la construction et de la déconstruction, elle pouvait être un peu mieux faite. Bon, on va dire que c'était l'inspiration du moment. Elle est partie dans l'introduction. Donc maintenant, directement, pour vous faire gagner du temps et savoir exactement à quoi vous attendre dans cet épisode, voici le contenu. Comme ça, vous saurez si vous êtes au bon endroit ou vous aurez mieux fait de vaquer à d'autres occupations pour mieux occuper votre temps. Dans cet épisode, il va être question de comprendre l'ego. S'il est vrai qu'on en a déjà parlé dans l'épisode 13 de cette chaîne de podcast, où l'on parlait de comprendre l'ego pour mieux s'aimer, alors le titre n'est pas exactement comme ça, je pars de mémoire, mais nous allons comprendre aussi l'ego. Il y a certaines choses que nous avons décrites dans cet épisode, épisode 13, que vous retrouverez dans cet épisode actuel, mais pas tant que ça. Nous allons vraiment prendre un autre angle, parce qu'aujourd'hui, ce dont nous allons parler, surtout, ce n'est pas de s'aimer mieux et pleinement, comme il était question dans l'épisode 13, mais il va être question des différents pièges de plus en plus subtil que l'ego nous tend pour toujours être présent dans nos vies. On va apprendre à les reconnaître, à déjouer ces pièges-là, à observer quels sont les indicateurs qui peuvent nous dire « Ah, attention, tu pourrais être tombé dans ce piège-là ». Et une fois que nous aurons fait tout ce tour-là, nous aboutirons à un moment extraordinaire parce que nous aurons fait tout ça pour voir, toucher du doigt, embrasser une potentielle transcendance sublimée de l'être. Rien que ça. En tant que promesse, on est pas mal. Mais avant de commencer, chers amis, permettez-moi de vous dire que le but de cette chaîne est de diffuser au plus grand nombre et gratuitement des clés et des pépites pour la transformation et la croissance personnelle. Nous croyons qu'il est possible de construire un monde meilleur et pour cela nous contribuons à éveiller la prise de conscience de l'immensité de notre potentiel, ceci en partageant des clés concrètes et applicables. Nous voulons apporter des contenus positifs, constructifs, pédagogiques, humains, et responsable, servi avec pragmatisme et une approche pratique qui donne toute sa place au bon sens et à l'expérience vécue. Ce qui nous intéresse avant tout, c'est de partager un comment pour vous permettre de faire et de passer à l'action concrète et pas juste de philosopher ou de nourrir le mental, car nous sommes convaincus que le moment est venu de réinventer notre humanité et ce n'est pas en restant dans le cadre que nous allons le faire. Cette chaîne de podcast fait partie d'un projet de plus grande ampleur allant au cœur de l'humain et de son potentiel appelé Conscious Media, le média pour une vie pro et perso en conscience. Et si, pour la raison qui soit, vous avez envie de nous partager votre opinion, vos avis, des questions, des réflexions complémentaires, des critiques constructives ou tout simplement vous avez envie de nous suggérer des thématiques pour des épisodes futurs, dites-vous que cette chaîne est avant tout la vôtre. Nous répondons à tous les emails qui nous sont envoyés, parfois avec un peu de décalage ou de retard parce que nous sommes surbergés dans cette roue de hamster dans laquelle on se retrouve parfois tous les jours avec le travail. Mais on ne manque jamais de répondre à tous nos emails et pour cela, n'hésitez pas à nous écrire à hello@conscious-media.com. On se retrouve par email ou tout simplement dans cet épisode qui vous attend sur l'ego et ses pièges. Bon, je commence avec des blagues à deux balles, mais la transition que je viens de faire, elle n'était pas fameuse non plus. Mais bon, écoutez, cet épisode a commencé avec une conversation autour de l'ego. J'étais avec une amie et on discutait tout simplement de thèmes divers et variés. C'est une conversation intéressante, animée et tout simplement un bon moment entre amis. Et à un moment donné, cette amie, elle me dit j'ai plus d'ego. Donc, on était dans le cadre de concentration. J'ai dit, mais comment ça, tu n'as plus d'ego? Non, non, moi, je n'ai plus d'ego. J'ai dépassé mon ego, je pense, du moins. Elle disait ça avec une totale humilité. Elle me dit ça. Et donc, moi, en rigolant, je dis, écoute, si tu dis ça, c'est que tu as un ego qui est galopant. Non seulement tu n'as rien, mais il est galopant. Et je commence à me marrer. Et là, elle me regarde, faisant semblant d'être vexée. Mais comment ça que j'ai un ego galopant? Tu veux dire quoi, là? Et là, on rentre dans la conversation. Et je dis, écoute, ce genre de phrase est caractéristique de l'un des premiers pièges de l'ego. Donc si toi tu penses ne plus avoir d'ego, c'est que probablement t'es tombé dans l'un de ces pièges qui au tout début du travail avec l'ego, te tend l'ego lui-même pour que tu le laisses tranquille. Et de là est venue une conversation super intéressante sur la question de l'ego. Et je me suis dit, cette conversation j'aurais dû l'enregistrer. Ça fait un épisode à part entière. Et donc du coup, je vais essayer de le vous retranscrire de façon un peu rangée pour tout simplement vous partager ces réflexions de cet événement et tout simplement ce qui tourne autour de ces questions de l'ego. Mais avant d'attaquer la question, permettez-moi de faire à l'américaine ce que l'on dirait un disclaimer. Parce que ceci n'est pas un épisode pour vous donner des leçons. Ce n'est pas non plus une description que je fais d'un piédestal de sachant, de celui qui a tout compris et transcendé de l'ego. Loin de là. Il faut dire aussi que cette liste de pièges que je vais décrire n'est pas exhaustive, mais un récapitulatif des pièges les plus communs et de leurs manifestations. Du coup, loin de moi l'idée de prétendre une omniscience quelconque sur une question aussi complexe. Mais je me dis que ce contenu est déjà un grand pas pour s'aider à avancer et mieux comprendre son rapport avec et à l'ego. Et pour finir, vous dire que je lutte avec mon ego, comme vous tous. Et que si j'en parle, c'est parce que j'ai un ego galopant qui prend plus de place qu'un 38 tonnes dans un champignon schtroumpf. Et j'en suis conscient. D'où qu'aujourd'hui, je me permette de parler de cette question qui n'est pas depuis la posture du sachant omniscient, mais depuis la posture de celui qui bataille et qui lutte avec son ego au quotidien. Maintenant, commençons par comprendre l'ego. Parce qu'il s'agit d'une construction psychologique identitaire qui naît au moment de notre petite enfance. Quand nous sommes petits, nous n'avons pas assez de recul ni d'expérience de vie pour avoir un sens de qui et de ce que nous sommes. Du coup, l'ego est une construction psychologique qui nous aide à développer la conscience d'un « je », J-E. Ainsi, elle donne une valeur à la personne et à sa vie. Du coup, on apprend à se regarder soi-même. L'ego, à ce moment-là, devient un très grand allié du cerveau reptilien. Le cerveau le plus archaïque, dont le but est d'assurer la survie de l'espèce. Du coup, le « je », J-E, qui naît de l'ego, a pour but d'assurer notre survie. Et pour cela, comme l'enfant n'est pas autonome, il est programmé pour attirer l'attention. Je m'explique. Si l'enfant est le centre d'attention, il assure sa survie et sa sécurité. Du coup, l'ego programme une conscience identitaire de type « je suis le centre du monde ». Et son message implicite est « je suis le centre du monde, donc je survis ». Tout le reste qui en découle sont des schémas psychologiques complexes, mais dont la base reste somme toute très binaire. 1. Je suis au centre, donc je survis. Si je ne suis pas, je suis en danger, donc je meurs. Et ça s'arrête là. C'est un jeu basé sur une représentation abstraite et réflexive à la fois. Mais comme nous manquons de recul, elle n'est pas représentative de notre moi véritable. Jusque-là, tout va bien. Mais c'est maintenant que ça se corse. Parce que l'ego est un programme binaire et simpliste dans un monde complexe. Sinon, ce serait simple, bien évidemment, mais qui a dit que la vie était simple? Car le problème avec l'ego est qu'il est d'une simplicité basique déconcertante. Et c'est ça le problème, sa simplicité basique. On pense que l'ego est ultra... Non, non, les comportements de l'ego sont complexes, compliqués, difficiles à dénouer. Mais sa base, elle est vraiment déconcertante tellement elle est simple et basique. Car dans sa construction abstraite, du jeu dont on parlait tout à l'heure, ce jeu identitaire, il est aussi binaire que le cerveau archaïque avec ses programmes basiques. Pour rappel, les programmes basiques du cerveau archaïque sont pipi, caca, manger, dormir, se reproduire. Pas toujours dans ce sens, ça peut faire un peu désordre. Et c'est tout. Parce que son objectif, c'est de faire survivre l'espèce, c'est la reproduction de l'espèce pour pouvoir perpétuer l'espèce. Ça s'arrête là, le cerveau archaïque. Du coup, j'ai besoin de manger et de survivre. Et l'ego, pour cela, il attire l'attention sur moi. De qui? C'est là que ça se complique après, mais on en parlera tout à l'heure. Ben, des gens que j'aime, parce que les autres, ils s'en foutent comme de l'an 40. Donc retenez bien ce passage, parce qu'on y reviendra après. La notion est importante, j'attire l'attention des gens qui s'intéressent à moi, des gens qui m'aiment, parce que sinon, il n'y aura pas d'effet. Mais avant de partir dans cette question-là, nous allons faire un petit détour. Et là, on va comprendre comment toutes ces choses-là évoluent. Car après la petite enfance, au début c'est tout simple, l'enfant n'a pas de notion identitaire, donc l'ego lui permet de l'avoir. Donc jusque-là, tout va bien, parce qu'il y a un vide qui est comblé par cet ego-là. Mais après la petite enfance, la vie suit son cours et nous développons une personnalité, une expérience et un vécu. Au début, dans tout ça, on accumule toutes ces choses-là. Au début, l'ego, depuis que je suis petit enfant, il a pris l'habitude d'agir à découvert et sans filtre. Et c'est l'ego tel qu'on le caricature. Cet ego qui, moi, je m'en moi, qui bombe le torse, qui se la pète, excusez-moi l'expression, qui ne passe pas les portes et qui ne sent pas ses chevilles qui gonflent. Mais un jour, la vie fait qu'on finit par le voir et on le regarde agir. On découvre son jeu à découvert et le dialogue s'engage. Lui, l'ego et moi. Et le rapport dual commence. Et on en parlera beaucoup plus tard, à la fin de cet épisode, je pense, si je m'en rappelle, du rapport dual avec l'ego. Et c'est là que commence le problème, avec ce rapport dual entre lui et moi. Car si on revient à l'évolution de la vie est complexe, et l'humain est complexe aussi. Et dès que vous dites complexité, ça rime toujours très mal avec simplicité. Donc, la vie rime mal avec l'ego. Pour commencer, la simplicité binaire de l'ego n'est pas toujours compatible avec l'existence d'autres égos. Et c'est tout simple, puisque soit je suis le centre, soit je ne le suis pas. Et comme je dois être le centre, car c'est le prix de ma survie, l'existence de notre ego qui présuppose que quelqu'un d'autre soit le centre me met en danger. Donc, à partir de ce moment, deux personnes toutes deux ayant un ego, étant au même stade de l'ego, la confrontation avec l'autre commence. Et là, nous avons déjà un premier problème, qui est une lutte de position, car je veux être le centre. Mais l'autre problème aussi revient avec la suite, la lutte pour l'attention et l'amour des autres. C'est le deuxième problème qui surgit à partir de là. Et là, de la lutte de position, on passe à une lutte d'intérêt qui définit ma cible, l'attention et l'amour. Et c'est là que naissent tous les rapports humains difficiles. Par contre, deuxième disclaimer, ne me faites pas dire que l'humain est mauvais par essence et que par conséquent, à cause de son ego, on est condamné à une lutte de position et d'intérêt. Non, nous sommes des êtres conscients. Certes, nous avons un ego qui nous pousse à ça. Dans un niveau de conscience de notre être et de notre ego, on pourrait être réduit à une vie de lutte, de position et d'intérêt, et on voit beaucoup de gens qui vivent enfermés dans ce cycle infernal, mais nous sommes quand même des êtres conscients, et notre chemin de conscience n'est pas de regarder notre animalité, donc le côté archaïque de notre cerveau, mais de regarder notre sublime divinité, si je pourrais l'appeler comme ça, notre espace conscient et supérieur, vers lequel on pourrait avoir tendance à prétendre et à aller. Donc c'est vers là qu'on va regarder, donc ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, je ne présuppose pas que l'humain est mauvais par nature. Dans son inconscience, il peut avoir tendance à être dans la confrontation pour les raisons que j'ai exprimées. Du coup, les rapports humains difficiles créent le premier vrai face-à-face avec l'ego. Car d'abord vient la lutte. Mais avec la lutte vient inévitablement, tôt ou tard, la souffrance. Et avec la souffrance, tôt ou tard, inévitablement, vient un premier bilan. Puis un deuxième, puis un troisième. Mais à un moment donné, le bilan vous fait découvrir que dans l'histoire que vous avez vécue, vous aviez aussi vos torts. Il n'y a pas que l'autre qui est fautif, il n'y a pas que l'autre ego qui demande que vous ne soyez pas l'attention qui est fautif. Il y a aussi des choses qui disent « mais attends, moi aussi j'ai agi de telle façon ». Et derrière les torts que vous découvrez qui sont les vôtres, vous découvrez alors l'ego et le tort qu'il vous a créé. Dès que vous voyez ça, vous avez fait un premier pas vers ce que l'on pourrait appeler le travail sur l'ego. Un premier pas. Vous avez appris à reconnaître qu'il y a une voix, V-O-I-X, intérieure, qui est un reflet simpliste, binaire et auto-centré de notre personne. Et vous vous décidez à déjouer les pièges qui en découlent et qui vous ont causé du tort dans la situation dont on a parlé tout à l'heure. Car ce reflet simpliste que vous voyez de qui vous êtes doit prendre en compte, et vous devenez conscient de ça, d'une certaine complexité dans l'humain, dans le monde dans lequel il vit, dans les rapports, et qu'il est nécessaire que vous acceptiez, donc que l'ego accepte que vous n'êtes pas seul. Ainsi, on apprend à réfréner les ardeurs impulsives de l'ego pour y mettre un peu de raison et de bon sens dans les relations. Et là, quand vous avez réussi à dépasser ce stade-là, vous vous dites que vous avez atteint le Saint Graal du développement personnel. Vous êtes une personne éveillée. Honneur et gloire à vous. Vous pouvez aller vous coucher et vaquer pour le restant de vos jours à une vie heureuse d'être accompli et éveillé, car vous avez travaillé votre ego. Navré d'être le rabat-joie de service, mais ce n'est pas aussi simple. Parlons maintenant des très nombreux pièges de l'ego. Mais après cette introduction, revenons à nos fondamentaux. 1. L'ego est binaire, il est très simple. Il veut votre survie, un point c'est tout. Et pour cela, il veut attirer l'attention et que vous soyez aimé. Mais, dans la simplicité binaire de sa programmation, il est d'une intelligence et d'une créativité hors normes. À un tel point que dites-vous une chose, vous ne gagnerez jamais la bataille contre lui. Il sera toujours plus créatif, inventif, intelligent que vous. Il fait partie de notre construction psychologique dès le départ et il restera avec nous jusqu'au bout. Mais n'allons pas trop vite et commençons par le commencement. Et vous allez comprendre maintenant, dans le déroulé que je vais faire des différents pièges, pourquoi il va toujours être plus intelligent que nous. Mais il y a une bonne nouvelle, et attendez la fin de l'épisode, il y a quand même des façons d'arriver à vivre avec, et voire même le transcender. Le premier piège de l'ego est celui que j'appelle l'ego brut de décoffrage. C'est le piège le plus connu. C'est l'ego qui agit à découvert. Celui qui s'affiche sans filtre. Il s'est habitué, à agir comme ça depuis qu'on est tout petit. Et bien du coup, il continue à faire, c'est comme ça qu'il a toujours fait. C'est l'ego de, excusez-moi l'expression, je me la pète. Dans 99% des cas, quand on parle de l'ego, on parle de celui-là, l'ego brut de décoffrage, qui est tellement dans ta face qu'il est très facile à voir. Je dirais même à déjouer aussi, pour peu que vous ayez un minimum de regard critique sur vous-même. Ce travail est le début du développement personnel. Il peut y avoir d'autres formes de travail qui mènent au développement personnel. Je ne dis pas que c'est le seul début, mais c'est un très bon début de développement personnel. Et il mène à une première transcendance de l'ego. Le résultat, c'est que le premier piège de l'ego n'opère plus. Vous avez vu cet ego brut de décoffrage qui vous fait présenter une version de vous-même que vous n'êtes pas réellement. En fin de compte, c'est un déguisement de mensonge qui essaye de convaincre le monde extérieur que vous êtes celui que vous avez besoin d'être à leurs yeux pour obtenir attention et amour et être le centre du monde. Ce piège-là, vous l'avez déjoué. Félicitations. À ce moment-là, vous allez réussir à ne plus le faire s'exprimer, l'ego va aller dormir dans sa niche un temps. Mais après, il va revenir. L'étape 1 est assez simple à dépasser. Dès le moment où vous comprenez que cet ego existe, dans le comment, pratique, il est assez simple de voir et de déjouer des pièges assez évidents, assez bruts, assez ordinaires. La deuxième partie de l'ego, celle-ci, elle commence à être un peu plus cossue. Et le deuxième piège de l'ego va vous faire croire que vous l'avez terrassé. Et c'est le meilleur moyen de continuer à vivre, c'est de vous faire croire qu'il a disparu. Et pourquoi va-t-il disparaître? Parce que l'ego va arrêter de s'afficher. Il ne va pas s'afficher pareil. C'était trop évident et il a compris que vous avez vu que c'était trop évident. Du coup, comme le jeu basique initial, entre guillemets, dans ta face ne marche plus, il va le compliquer, histoire de vous brouiller les pistes. Et comme il ne peut plus jouer à découvert, il va se déguiser. Et à ce stade, il va avoir 3 déguisements dans sa garde-robe. Si vous tombez dans le piège à ce stade-là, vous vous dites que vous n'avez plus d'ego. C'est la preuve que vous êtes bloqué quelque part à ce stade. C'était au tout début la conversation dont je vous parlais. À vrai dire, vous êtes à peine sur les starting blocks du travail sur l'ego. Alors, comment faire pour s'en sortir? D'abord, il va falloir découvrir l'existence de l'un ou de plusieurs des 3 déguisements. Le premier. Une certaine humilité. Et je dis une certaine humilité, je pourrais dire entre parenthèses forcée, mais je la mets juste entre parenthèses le forcer parce que c'est la posture de je n'ai plus d'ego qui force le fait d'avoir humilité. C'est une humilité qui est moins incarnée parce qu'on est profondément dans cette humilité, mais plus parce que c'est une attitude qui découle du fait qu'on a intégré qu'on n'a plus d'ego. Dans ce cas-là, on commence à mettre beaucoup plus d'eau dans son vin, à voir la part des choses, on reconnaît ses torts, ses travers, ses vulnérabilités, ses imperfections. On met du bon sens dans les rapports, on ne souffre plus comme avant par rapport à son image et son identité, les reflets qu'on peut nous envoyer, les miroirs que l'on peut nous présenter. Et on vit tout ça comme une humilité véritable. Car l'ego, il a compris le jeu. Il a compris que vous mettre, s'imposer à vous ne marche pas. Et du coup, en vous invitant à rentrer là-dedans, c'est le meilleur déguisement possible qu'il puisse avoir pour que vous ne le voyez pas. C'est un déguisement qui nie d'emblée l'existence de l'ego. Ce déguisement-là, il est particulièrement difficile à voir. Donc, je ne vais pas m'attarder trop sur comment faire pour identifier cette humilité, je mets des guillemets, forcé, car quand il s'habille d'humilité, il va venir s'habiller aussi des autres déguisements. Il est plus facile de déjouer les autres que celui-ci, car celui-ci, souvent, il est vraiment habité d'une humilité sincère. Mais cette humilité, elle est manipulée par l'ego qui se cache derrière. Maintenant, le deuxième déguisement, c'est une certaine, je dis certaine, suffisance. C'est beaucoup plus subtil, donc elle n'est pas dans ta face celle-là. Ce n'est pas une suffisance de celui qui regarde par-dessus l'épaule. Non, c'est une suffisance qui est un peu plus subtile, un peu subreptice, si vous me permettez. cette suffisante est insuffisance, pardon, est invisible au monde extérieur. Pour le monde extérieur, on dit? Du monde extérieur? Excusez-moi. Vous m'aurez compris. Car l'humilité est là pour faire taire cette suffisance. L'humilité dont on parlait tout à l'heure va forcément faire que tout comportement suffisant soit banni de notre comportement. Mais, on parle là d'une suffisance subtile, déguisée. Car l'ego ne joue plus carte sur table, et ça vous l'aurez compris. Et cette suffisance, elle dit, voilà, moi je sais ce que les autres ne savent pas. Moi je suis différent. Je suis encore le centre de mon monde car je suis exceptionnel et je mérite attention et amour. Et l'indicateur du piège, il est là. C'est quand vous vous dites, je suis plus avancé que mes pairs, que les autres. Je suis différent. Je suis meilleur. Je suis supérieur aux autres. Bien sûr, on ne se dit pas tout ça aussi clairement, parce que sinon on serait peut-être dans le tout premier stade des pièges de l'ego. On constate tout simplement que les autres ont encore un chemin à parcourir que vous, vous avez déjà parcouru. Vous voyez la nuance subtile? Vous ne vous dites pas « je suis mieux, je suis plus à l'avant, je suis… » Non, vous reconnaissez tout juste, bon, mais les autres ont encore du chemin à parcourir. C'est subtil, mais ça amène exactement au même endroit. Et ça amène alors à un comportement où je me reconnais dans un groupe restreint. Et c'est important. C'est un groupe, alors je force le trait parce que jamais on ne l'appellerait comme ça, un groupe d'élus. Ok, un groupe de personnes se différenciant par certaines caractéristiques. Du coup, l'ego n'est plus exclusif. Regardez-moi, je suis le seul. Il a compris que vous avez déjoué ce piège-là. Il devient communautaire. Et c'est nous qui savons, nous qui sommes, et mettez quelque chose après les points de suspension. Et c'est au sein de cette communauté que l'ego va revenir. Et c'est là que le concours de quéquette commence. Excusez-moi l'expression. Car je profite de cet instant pour vous dire que vous croyez que le premier piège de l'ego était transcendé à jamais et que nenni, ce piège-là est toujours là. Mais maintenant, au lieu de s'afficher tous azimuts, il va choisir ses batailles. Donc d'abord, à travers ce côté suffisant exclusif, il va vous amener dans un comportement plus grégaire au niveau d'une communauté d'élus. Et une fois que vous êtes dans cette communauté, il revient avec son premier piège. Parce que maintenant, toutes les cartes sont sur table, on joue tous au même jeu. Donc, on revient à une sorte de hiérarchie volontaire parce que l'attention et l'amour est encore nécessaire à l'intérieur de là. Est-ce que vous vous reconnaissez dans ce petit parcours? Mais il y a un troisième déguisement. Vous ne bombez plus le torse, ça vous l'avez compris. Mais vous avez toujours besoin que le monde, ou un monde du moins, continue à tourner autour de vous. Alors vous restez centré sur votre personne. C'est assez facile de voir aussi. L'autre indicateur est aussi facile à voir. Comment on se compare aux autres et comment on vient constituer des groupes dont mon appartenance me différencie du reste du monde. Ensuite, nous avons ce troisième piège qui est celui de tourner autour de notre personne. Non pas d'un point de vue, je suis le centre du monde, le plus beau, le plus grand, le plus méritant, mais d'un point de vue, et moi, lisez entre les lignes, parlez-moi de moi, et vous ramenez à vous les conversations. Vous voulez apprendre sur vous, vous voulez parler de vous, vous vous ramenez, comme je disais, les conversations à vous, vous voulez savoir ce qu'il en a dit sur vous, il a-t-il parlé de moi, il a-t-il dit au moi, est-ce que c'est ça qu'il dit sur moi, ou comme dans un cas comme le mien, et on ramène ça à une vision auto-centrée. C'est là l'un des indicateurs comportementaux qui vont vous permettre de réaliser aussi que vous êtes dans cet espace-là. Vous qui croyez les avoir dépassés, vous prenez alors conscience, à travers l'identification de l'un ou de plusieurs de ces déguisements, que l'ego, il est encore là. Du coup, vous êtes conscient, vous ne bombez plus le torse. Non, excuse-moi l'expression, mais vous ne vous la pétez plus. Non, vous êtes devenu humble, oui. Mais vous venez de reconnaître qu'il y a encore de l'ego dans tout ça. Et là, vous venez de remporter une nouvelle victoire. Il vous avait bien eu, le petit chenapan. Vous qui croyez l'avoir dépassé. Du coup, ce qui est important à retenir, c'est qu'au début, vous étiez avec un ego avec une logique simple. Il s'affichait sans filtre et vous avez déjoué son jeu. Du coup, il s'est caché, il s'est terré dans un petit coin et il est revenu, non plus avec une logique simple, parce que vous l'aurez bu trop facilement, mais avec une logique multiple. Il se déguise de façon différente, de l'une, de deux, des trois, ou d'un amalgame des unes et des autres, histoire de noyer le poisson dans l'eau, mais vous amenant à chaque fois à croire qu'il n'est plus là. Mais vous l'avez vu, et c'est reparti pour un tour. Deuxième transcendance de l'ego, nouveau piège déjoué, et l'ego va une fois de plus se recoucher dans sa niche. Pour un temps, parce qu'il va revenir toujours plus fin, toujours plus habile et toujours mieux déguisé. Et c'est là que l'on arrive à l'ego fractal, le troisième piège. Là, ça se complique. Vous avez déjà vu une fougère ? Comment il y a une tige, que de cette tige naissent des feuilles ? Que ces feuilles-là sont constituées de tiges identiques à la tige initiale, que ces tiges-là font elles-mêmes de petites tiges avec des petites feuilles, qui elles-mêmes ont des petites tiges qui font des petites feuilles. C'est comme si plus on zoome la fougère et on retrouve la même partie de la fougère de façon plus petite. C'est une sorte de répétition permanente du même schéma. Eh bien, c'est ça, une logique fractale. Eh bien, l'ego fait pareil. Il ne va plus se contenter d'une personnalité qui lui est propre, c'est le piège 1. Ni d'un environnement qui lui est propre, c'est le piège 2. Mais il va choisir les systèmes qui vont mieux lui aller, qui lui sont propres. Ou devrais-je dire plutôt les systèmes, le système de brèche, entendez, vulnérabilité dans lesquelles il va pouvoir s'immiscer. À ce stade, l'ego gueulard a compris qu'il n'a pas de futur avec vous. Alors il devient fin et subtil. Il oublie de se faire remarquer de façon évidente. Il va juste frapper avec précision chirurgicale. Là où vous avez mal. Ce sera pour lui plus facile de se faire entendre. Mais aussi de passer outre vos défenses, car vos ressources seront concentrées sur la défense de ses points de vulnérabilité. Et il est retors le petit, hein. En fin de compte, il veille tout simplement à sa survie. Ainsi, partout où il y a une vulnérabilité, il va venir se terrer. Et ici, on ne parle plus de piège au singulier, mais de piège au pluriel. Car il y a autant d'endroits dans lesquels l'ego peut se terrer que de vulnérabilité n'existe chez nous. Et c'est là l'indicateur majeur que vous donnez. Dès qu'il y a une vulnérabilité, c'est-à-dire une menace potentielle, comme si une programmation de l'ego, il va venir se terrer là-dedans. Alors observez si, dans cette vulnérabilité, il y a des traits comportementaux dont l'objectif est d'attirer l'attention, l'amour des gens, pour être le centre de toutes les attentions. Ce sera votre moyen de déjouer l'ego à ce niveau. Et déjouer les schémas comportementaux qu'il incite pour rentrer dans ce cycle d'attention, d'amour pour être le centre et qui pourrait biaiser le rapport à la vulnérabilité et les situations qui y sont rattachées. C'est à ce stade-là que l'on va déployer 4 stratégies. Et si vous en avez une d'entre elles, et la plupart d'entre nous en avons une, vous êtes tombé dans le piège de l'ego, du niveau dont nous sommes en train de parler, celui d'une vulnérabilité, l'ego fractal qui est venu s'immiscer dans toutes les brèches. La première stratégie, c'est celle de la victime. Vous allez vous plaindre, vous flageller, et vous, tout simplement, vous pleurnicher chaque fois qu'on vous demande comment vous allez. Ah, je suis malade, j'ai mal ici, j'ai mal là. Et vous avez tous des amis qui, dès que vous leur posez la question de comment ils vont venir déballer 50 000 raisons pour prouver que ça ne va pas. Et à partir de là, ce qu'ils attirent chez vous, c'est une compassion, une empathie. Ah bon, mais alors raconte-moi, oh t'as un problème avec ton conjoint, oh raconte-moi, oh t'as un problème avec ta femme, oh dis-moi, oh mince, t'as ça, oh t'as mal ici, ou mal tabac, alors tu as fait quoi, et ceci, cela. Dès le moment où vous portez un intérêt au fait que la personne ne va pas, ce qui est très humain, mais tac, direct, elle a attiré votre attention. Et vous allez devoir lui faire preuve d'amour et d'intérêt. Boum, l'ego a remporté, le jeu de la victime est très très répandu. Mais il y en a un autre, celui-là il est retors et manipulateur, parce que c'est le culpabilisateur. Lui il vient pas en victime, lui va venir se plaindre. Il va venir se plaindre que vous êtes responsable, ou que l'autre personne est responsable de ce qui vous arrive. L'autre personne qui ne veut pas vous causer de tort, mais va se sentir mal. Et comme elle se sent mal, elle va vous porter son amour et son attention, elle va faire toutes les preuves possibles pour vous prouver que non, qu'elle vous aime et qu'elle fait attention à vous. Bam ! Deuxième programme, l'ego encore remporté la bataille dans cette vulnérabilité-là. Ensuite, nous avons deux autres qui sont quand même assez particuliers. On a celui que l'on pourrait appeler l'esthète. Vous voyez ? Cet homme qui se promène, ou cette femme qui a remarqué que vous le regardez, et à la seconde où il remarque que vous le regardez, il prend une position où il vous ignore comme moins que rien. Mais il se contente pas de vous ignorer. Il a besoin de votre attention. En fin de compte, en vous ignorant, il force votre attention. Si vous faites ça à quelqu'un que vous connaissez et avec lequel vous travaillez, il y a dans le monde du travail, c'est un comportement très répandu chez les chefs faillants, c'est à un moment donné, je t'ignore, je te parle même pas. Et toi, t'es là, merde, qu'est-ce que j'ai fait, il s'est passé, il y a un problème. Et on laisse la personne se bouffer, se morfondre pour essayer de compenser cette situation-là. C'est le simple fait qu'il m'ignore qui me crée un tas de doutes et par conséquent, qu'est-ce que je fais? Je vais porter encore plus d'attention à cette personne-là, parce qu'elle a aucune raison de m'ignorer, et lui montrer à quel point elle n'a pas raison de m'ignorer. Ça, c'est l'esthète, il fait le beau. Okay? Et il y en a un quatrième. Et c'est celui qui va créer des rapports fusionnels. Ça, c'était mon cas à moi. J'ai cherché un rapport fusionnel avec la personne, comme si on était frères tous les deux. Et je ne me rendais pas compte que dans ce rapport fusionnel, ce que je faisais, c'est que je m'engageais avec la personne dans cette relation, je partageais avec elle, et dans ce rapport fusionnel, ce dont j'avais besoin, c'est tout simplement de son attention et de son amour. Donc, l'intention est soi-disant bonne, mais en réalité, dans ce rapport fusionnel qui est développé avec l'autre personne, ce que l'on retrouve à la fin, c'est encore un autre piège de l'ego, que ce qu'il recherche, c'est attention, amour, parce que il en vient de ma survie. Avec ces quatre comportements que nous avons tous à un degré plus ou moins prononcé dans l'un ou dans plusieurs d'entre eux, vous avez des indicateurs importants pour déjouer l'ego à ce niveau. Chacun de ces programmes demande de l'attention. Et en plus, il faut le dire, il est très énergivore pour l'autre personne. Du coup, arrivé à ce stade, nous avons vu 1, 2, 3 progressions des pièges de l'ego. Donc, dans son évolution, dans sa complexité, sa subtilité, l'important à retenir, c'est que l'ego est passé d'une logique simple, dans ta face, je m'impose brut de décoffrage, il dit l'ego, à une logique multiple, là il va se déguiser de 3 façons différentes pour se faire oublier, à une logique complexe, parce qu'il va s'immiscer dans tout un système de brèches. Et c'est là que nous sommes cuits, mes amis. Car il n'y a pas de limite à la logique fractale. Alors se dire, l'ego un jour ce sera fini, c'est une utopie. Il y aura toujours une petite brèche, aussi petite soit-elle, il y en aura toujours une quelque part où l'ego pourra se mettre et nous amener dans un cercle, un cycle infini, où l'on tourne en rond à chaque fois pour voir à chaque fois comment celui-ci vient s'immiscer et exploiter cette zone de vulnérabilité. Du coup, comment faire ? Maintenant, on rentre dans la partie ultra pragmatique, c'est-à-dire la mise en application de tout ça. Parce que c'est bien de comprendre tout ça, les trois pièges, comment on peut les identifier, mais du coup, qu'est-ce que l'on peut faire ? Concrètement, comment on fait ? Moi, j'ai deux suggestions. La première, c'est le voir, le reconnaître, et non pas lutter contre lui, mais l'accepter. Et là, c'est une clé extrêmement, extrêmement importante. Dès le moment où vous acceptez que l'ego est une construction psychologique identitaire qui est là pour rester, vous n'allez plus lutter contre elle pour essayer de la terrasser, de la faire disparaître, parce qu'il reviendra toujours s'immiscer dans les moindres méandres où vous n'aurez pas posé votre attention. Si vous acceptez qu'il est là, à un moment donné, il ne se cachera plus de la même façon. C'est à mon sens la seule solution écologique que j'ai pu trouver. Du coup, avec ce parcours, les différents pièges et tout ça, on a appris à reconnaître l'ego, à reconnaître son intelligence et ses jeux de cache-cache. On a appris à reconnaître aussi ses pièges. On peut les identifier. Alors on sait si on tombe dedans ou pas. Et on a beau les connaître, je vous garantis, vous tomberez dedans. Même si vous les connaissez, on tombe dedans encore et toujours. C'est comme ça. Mais si vous l'acceptez comme une autre des voix V-O-I-X intérieures, vous savez qu'elle vous parle, des choses qu'elle vous dit, mais vous savez aussi qu'elle vous conseille. Et là, vous pouvez décider quand est-ce que vous l'écoutez et quand est-ce que vous l'ignorez. Car maintenant, il faut dire que l'ego n'a pas que du mauvais. Parce que ça, c'est l'autre piège dans lequel on tombe. C'est que comme on est dans une lutte contre l'ego, dans ce rapport dual dont je parlais tout à l'heure, comme on est dans une lutte contre l'ego, forcément, l'ego est un ennemi. Mais c'est faux. C'est faux. L'ego, ce qu'il veut, c'est notre survie. Et c'est ça qui est important. C'est que parfois, on a besoin de lui. Car quand plus rien ne va, il est là, avec moi, pour me sauver la peau. Quand je touche le fond, il est là pour me relever. Quand le monde s'écroule autour de moi et que tout m'écrase pour me dire que je ne vaux rien, lui, il reste debout à mes côtés pour me dire que j'ai encore un peu de valeur. Et il me permet de recroire en moi, de retrouver une estime de moi-même. D'ailleurs, je dirais que même quand ça va, c'est bien que l'ego nous permette de croire en nous. Et à ce moment-là, on se relève. Et l'ego nous sauve la vie. Et c'est la raison pour laquelle, je dirais entre parenthèses, que les survivants, je mets des guillemets, les survivants, les personnes qui ont vécu des choses très difficiles, ont des égos surdimensionnés. Parce qu'ils ont vécu avec lui comme allié fidèle qui leur a sauvé la peau. Moi-même, je m'inscris là-dedans. Il m'a sauvé la peau à deux reprises. Sans lui, je ne sais même pas si je serais là aujourd'hui à vous parler. Alors j'ai appris à l'écouter. Car il ne dit pas, excusez-moi l'expression, que des conneries. L'ego, il peut être un allié fidèle à certains moments. Alors pourquoi va-t-on aller le tuer ? Du coup, avec tout ce que je vous ai décrit, première façon de faire. On a appris à l'observer, à le voir à travers nos comportements et avec des indicateurs comportementaux. C'est tout ce que j'ai décrit. On apprend à le reconnaître. Les différents pièges nous donnent un cadre à l'intérieur duquel je peux poser l'ego. Et le dernier point, tout simplement, je l'accepte. J'arrête la lutte. Je commence la cohabitation. Donc, quels outils sont à votre disposition pour faire tout ça? Parce que là, on est vraiment enfermé dans le mental. Il y a plein de choses que l'on va pouvoir faire pour vivre ce processus, l'incarner. Eh bien, pour moi, l'exercice anor, la pratique reine, c'est la méditation. Et notamment ce que j'appelle la méditation introspective. Donc, c'est un type de méditation dont on ne parle pas beaucoup, mais si je devais le résumer en quelques mots, c'est une observation de notre fort intérieur, de notre comportement, de comment nous faisons une sorte de visualisation des situations que nous vivons, de comment nous réalisons, une sorte d'entrée, de pénétration, je dirais même, de nos pensées, de nos schémas, de les habiter, de les comprendre, de s'imbiber à travers cet exercice d'observation intérieure pour essayer de comprendre les rouages qui nous amènent à certains comportements. Et comme on a le cadre que je vous ai décrit, il devient beaucoup plus facile de faire ce travail-là. Car l'une des difficultés dans le travail de l'ego dont on est en train de parler, c'est que le cadre que je viens de vous décrire, on doit le deviner, on doit l'identifier. Et donc, c'est un chemin d'années de travail. Une fois que vous avez ce cadre tel que je vous l'ai posé là, il commence à être plus clair. Où en suis-je réellement? J'ai des indicateurs comportementaux, j'ai donc une façon de les expliquer, de le comprendre, je sais à peu près où je me trouve, et donc je sais où regarder et par conséquent quoi faire pour transcender avec l'exercice de méditation introspective. S'il existe d'autres pièges, après l'approche fractale, ben, il faut que je reconnaisse que je dois être bloqué dedans, parce que je n'en ai pas encore vu. Donc ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas d'autres pièges. S'il y en a, ça veut dire que moi je suis encore dedans, et donc je ne peux pas vous en parler. Donc ça c'est le premier point, voir, reconnaître, accepter. Et le deuxième, là, c'est un méga kiff. On parlait tout à l'heure de dualité. Donc maintenant, ça va que se corser un petit peu. Mais je pars dans les tours, mais je vais vite revenir parce que on va loin avec ça. Alors pourquoi ça se corse? Parce que quand on parle de dualité, ça présuppose qu'il y a deux forces qui s'opposent. Alors au pire, c'est un combat. Au mieux, c'est une cohabitation et un équilibre. C'est la solution numéro une que je vous ai donnée. Mais, dans tous les cas, 1 plus 1 égale 2. Il est impossible de sortir de la dualité. Avec un et un autre, on ne peut pas sortir de la dualité. Pour sortir de la dualité, il nous faut une troisième force. Ok? C'est important. Ça veut dire qu'on n'est plus 1 plus 1, on est A, B et C. Et tout ça égale 3. A plus B égale 2. A plus C, c'est un autre 2. Tout comme C plus B, c'est un autre 2 encore différent. 1 plus 1 plus 1 égale 3. Mais 3 nous ouvre les portes vers des combinaisons plurielles, des nuances et des alternatives. Et c'est là que commence la transformation et que la transcendance devient possible. D'ailleurs, le Tao Te Ching, l'un des grands ouvrages fondateurs du taoïsme, nous parle de l'unité primordiale qui engendre le 1. L'unité. Pardon. D'ailleurs, le Tao Te Ching, qui est l'un des ouvrages fondateurs de la philosophie taoïste qui me tient particulièrement à cœur, nous dit « Le Tao, il s'agit de l'unité primordiale, si on peut l'appeler comme ça, le Tao engendre l'un. L'un engendre deux. Deux engendre trois. Et trois, les 10 000 êtres. Tout simplement, ici, on est dans une genèse. Tout simplement, nous sommes ici dans le chapitre 42 du Tao Te Ching et on nous décrit la genèse du monde. De l'unité fondamentale, on engendre une unité, le 1, qui engendre le 2, une dualité. Cette dualité se retrouve donc dans le Tao Te Ching, cette dualité, c'est le yin et le yang. Le yin et le yang engendrent le 3. Le 3, c'est le chi, c'est l'énergie. Et tous les trois engendrent les 10 000 êtres, c'est-à-dire tous les êtres vivants sur Terre. Mais c'est la rencontre de la troisième force qui permet ces alternatives, ces nuances, ces approches plurielles. Et donc, quand nous sommes dans le rapport à l'ego, l'important, c'est de rompre le rapport dual. Il faut une troisième force. Car nous avons, dans le rapport dual, l'ego, force 1, et ma conscience individuelle actuelle qui regarde l'ego agir à l'intérieur de moi, et on voit que ce sont deux choses différentes. Et ça, c'est le 2. Où est le 3? Eh bien, le 3 serait l'essence pure de l'être. Ce que l'on pourrait appeler aussi l'essence pure de l'être qui naît de la nature de l'esprit. C'est la conscientisation de cet être sublimé que nous sommes, d'où on vient, de ce que l'on est, c'est cette version superlative de qui je suis. C'est une connexion avec cette essence pure de l'être qui permet une transcendance ultime de l'ego. Car on ne travaille plus l'ego comme on l'a décrit dans toutes les étapes de cet épisode, on va aller voir au-delà de l'ego. Je ne trouve pas d'autre réponse pour sortir du cycle infernal de l'ego fractal. Je ne trouve pas d'autre réponse. C'est que, au lieu de t'occuper de l'ego, et d'aller toujours vaquer, aller réduire les brèches, il y aura toujours des brèches, aussi petites soient-elles. Et donc, au lieu de se condamner à cette sorte de spirale infinie, on va oublier l'ego, on va aller voir ce qu'il y a au-delà de cet ego. Donc, transcender, voir au-delà de l'ego. Et ceci est une approche de la psychologie orientale qui considère que l'être conscient, dans son essence, dépasse l'ego, qui est une base très archaïque, identitaire. Il y a une base beaucoup plus puissante qui s'incarne dans la réalité essentielle de l'être, qui, elle, peut être touchée et expérimentée. Donc, l'ego est juste une étape d'évolution dans l'éveil de conscience. Alors que la psychologie occidentale, elle tourne autour de l'ego. Elle en a fait le point central. Et à mon sens, excusez-moi peut-être la suffisance, alors je suis peut-être dans le piège, excusez-moi peut-être la suffisance du commentaire que je vais faire, mais pour moi, c'est une grasse erreur d'intellectualisation des mécanismes de l'être. Pour moi, c'est encore un piège de l'ego qui a su se protéger ainsi. Si tu dis que l'ego, c'est le centre et que à partir de là, tout se construit, eh bien, il vient de monter une énorme forteresse inexplicable, où il sera particulièrement tranquille. Jamais on va venir l'enquiquiner, parce que cette psychologie occidentale présuppose que l'ego, il est là et qu'il est indéboulonnable. Eh bien non. Et pourquoi je défends ce point de vue de façon aussi forte? C'est parce que quand vous expérimentez, moi c'est l'école vraiment que je défends tout le temps, c'est expérimenter les choses, pas les conscientiser, les intellectualiser. Ça, on tombe trop facilement dans le piège du mental et de la pensée abstraite. Quand vous expérimentez dans votre corps la transcendance de l'ego et qu'on la touche du bout des doigts, ne serait-ce qu'une seule fois, et ça, c'est possible à travers les pratiques méditatives. Vous pouvez avoir des expériences où à un moment donné, vous allez vivre des fusions avec de tout, des moments de liaison superlative avec le vivant, avec les autres personnes, des moments absolument extraordinaires que l'on pourrait appeler des expériences de lumière, d'éveil, de conscience. Appelez-les comme vous voulez. Dans la pratique méditative, c'est ouvert à tout le monde, même aux débutants, de vivre ce genre d'expérience. Et quand vous les vivez, vous savez qu'il existe autre chose que le simple moi égotique. Quelque chose de beaucoup plus grand, qui me définit, qui me constitue, qui me forme et qui me dépasse. Et ce quelque chose, c'est un chemin spirituel à part entière. C'est un chemin de connexion à l'être véritable que je suis réellement. Et du coup, en me dénudant de la construction identitaire initiale que j'ai créée étant enfant pour me donner une place dans le monde, je reviens à mon essence. Et je me permets de dire, je reviens à la maison. Et je cesse de dépendre des ressources du monde extérieur, car j'ai enfin retrouvé ma source intérieure. Waouh, chers amis, mais quel épisode! Je suis allé beaucoup plus loin que je ne pensais que je n'irais, et nous avons parlé des pièges. De l'ego, pardon, et de ses pièges. Bon, là je me retrouve, le ressenti que j'ai, c'est que nous venons de conclure un véritable épisode pour Ninja. On est allé loin, on a déjoué, identifié, listé les pièges de l'ego dans ses différentes phases évolutives. Et ils sont au nombre, elles sont, pardon, au nombre de 3. Mais avant ça, nous avons commencé par comprendre l'ego, le reposer dans sa construction psychologique de quand nous étions enfants et comment ensuite il évolue de notre vivant en nous amenant dans les 3 pièges. Le premier, l'ego brut de décoffrage dans ta face. Le deuxième, l'ego multiple qui va venir se déguiser pour faire semblant de ne pas exister. Et le troisième, un ego dans une logique fractale qui va venir s'immiscer dans toutes les brèches de votre vulnérabilité ou de vos vulnérabilités. Mais dans tout ça, on a appris à le reconnaître. Il y a 2 façons de faire pour aller encore plus loin. La première, voir, le connaître et l'accepter, une cohabitation pacifique. Et la deuxième, créer un lien avec l'essence pure de l'être et se sublimer. Je suis Keragir et ceci est votre chaîne de podcast Une alchimie de l'éveil. N'hésitez pas à vous abonner et à nous laisser une petite note sur Apple Podcast, Spotify. Plus nous aurons d'étoiles et de commentaires positifs, plus ces plateformes auront tendance à nous promouvoir auprès du grand public et donc un plus grand nombre pourra découvrir ces épisodes. Et pour finir, le plus grand service que vous pouvez nous rendre, et c'est complètement gratuit, c'est parlez-en autour de vous, car la fête n'est jamais aussi belle que quand on la partage entre amis.